Il est 7h.
C'est les souvenirs du printemps dernier qui reviennent et qui sont absolument détestables. Faire et le télétravail et m'occuper de mes enfants et leur faire à manger et m'occuper de tout. Non, en fait, j'y arrive pas.
H24 sous le même toit et pendant au moins 3 semaines. Télétravail pour les parents, enseignement à distance et vacances pour les enfants et déjà la crainte de revivre les affres du premier confinement. Un premier confinement dont l'éducation nationale a tiré les leçons. Meilleur équipement, progrès technique, la mise en place du distanciel, comme on dit, devrait se faire plus facilement. Et au-delà des mesures de freinage annoncées hier, Emmanuel Macron mise également sur la vaccination avec un engagement sur un calendrier, engagement potentiellement à double tranchant pour le chef de l'État. Dans ce journal aussi, le groupe Pierre Fabre, 3e laboratoire pharmaceutique français, victime d'une cyberattaque. Et les Bleus, en tête de leur groupe, n'est pas forcément convaincant à l'issue de la première phase de qualification pour le Mondial 2022. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Désorganisation du travail, casse-tête sociale. Au-delà de leur coût, les mesures annoncées pour ce 3e confinement sont un coup dur pour les entreprises, surtout les plus petites.
Le regard international de Vincent Hervouet et l'édito sport de Virginie Fulpin.
Un coup de chapeau aux clubs et associations de sport amateurs parce qu'ils nous montrent une vraie capacité à se réinventer, à proposer des solutions en ces temps de crise.
Très bon réveil à toutes et à tous. Nous serons aussi bien sûr avec Stéphane Bern avant 7h30 pour votre rendez-vous d'histoire. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce sont deux mesures étroitement liées qui ont été annoncées hier soir. D'un côté, la fermeture des écoles à partir de la semaine prochaine et de l'autre, la systématisation du télétravail des parents à domicile pour gérer aussi leur progéniture. Solution la plus adaptée pour freiner le virus tout en préservant l'éducation des enfants. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a défendu ses annonces hier soir.
Sauf que parents comme enfants sont loin d'y voir une solution idéale, comme a pu le constater Arthur Mbaché dans les rues de Strasbourg.
Ah, c'est terrible.
Terrible, ça recommence. Encore traumatisée par le premier confinement, Valérie vit seule avec son ado de 13 ans, Selena, qui sera de retour au collège au mieux le 3 mai.
Le problème, c'est psychologiquement pour les enfants et pour les parents, c'est très rude. L'école à la maison, c'est une épreuve pour tout le monde. Hein. Ma fille pourrait vous le dire, hein, c'était cauchemardesque le mois de mars. Terrible, on a dû appeler la maison des ados pour nous aider, on a dû appeler à faire appel à des structures parce que c'était...
Ça me déprime un peu et j'ai pas envie de revivre l'année dernière parce qu'on se disait que 2021 allait être différent, mais j'ai peur que ce soit la même chose. Enfin voilà, c'était une épreuve. J'ai pas envie de revivre ça.
Marion a 3 enfants de la maternelle au collège.
C'est les souvenirs du printemps dernier qui reviennent et qui sont absolument détestables. Faire et le télétravail et m'occuper de mes enfants et leur faire à manger et m'occuper de tout, non, en fait, j'y arrive pas.
Positif au Covid, contaminé il y a quelques jours seulement par un de ses enfants, Julien ne peut qu'approuver, dit-il, les nouvelles mesures.
Je ne sais pas si je vous aurais dit ça la semaine dernière, mais en tout cas, aujourd'hui, je le dis. On est tous usés par la situation, alors effectivement, si on doit mettre un dernier coup d'épaule, c'est peut-être maintenant.
C'est maintenant, dans l'espoir, dit François, de vivre un été libéré. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Un troisième effort demandé donc par le chef de l'État aux parents, aux enfants, mais aussi aux établissements. Et cette fermeture des écoles dès la semaine prochaine, cette fois, elle a pu être anticipée, hein, Virginie Riva.
Oui, les proviseurs le disent, ils sont complètement capables de basculer dès mardi en distanciel, surtout s'il s'agit d'une courte durée, c'est assez facile à organiser. Globalement, les leçons ont été tirées depuis un an, selon Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN.
On a beaucoup progressé sur les aspects techniques, alors puissance des serveurs, bande passante, pas mal de régions, de départements ont équipé les élèves de terminaux divers et variés, tablettes, micro-ordinateurs. Les établissements ont investi dans des matériels.
Les enseignants ont également progressé, des formations ont été mises en place. Il y a moins l'effet de surprise, nous dit même en off un syndicat. Tout l'enjeu la semaine prochaine sera de bien adapter les contenus. Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat UNSA.
Il faudra donc être assez au clair sur le fait que l'on est sur de la consolidation d'apprentissage, sur des révisions, sur du travail scolaire, mais qu'on n'enclenche pas des nouveaux apprentissages dans une configuration dégradée qu'est l'enseignement à distance.
C'est au primaire que l'enseignement à distance est le plus difficile à mettre en œuvre, même si là aussi il y a eu beaucoup d'efforts. Mais les élèves du premier degré ne vont finalement avoir que 3 jours à distance, mardi, jeudi, vendredi.
Et on rappelle donc le calendrier qui va valoir pour toutes les académies. Cours en distanciel pour les écoles, collèges, lycées la semaine prochaine, vacances pour 2 semaines ensuite et retour progressif en classe à partir du 26 avril pour ce qui est des crèches, fermeture pour 3 semaines.
Un calendrier scolaire donc annoncé hier par le chef de l'État qui a aussi détaillé les prochaines étapes clés de la vaccination.
Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. À partir du 15 mai, Les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans.
Objectif, que tous les Français qui le souhaitent soient vaccinés d'ici la fin de l'été, tous les adultes français. Victor Dolan, un tel calendrier est-il tenable ?
Oui, car le président sait que les livraisons de vaccins seront beaucoup plus importantes dans les prochains mois. Si les laboratoires pharmaceutiques respectent leurs engagements, la France recevra près de 13 millions de doses en avril, soit autant que pour les mois de février et mars réunis. La montée en charge va se poursuivre et s'intensifier avec 17 millions de doses attendues en mai et 26 millions en juin. Dans les prochains jours, des super centres de vaccination vont ouvrir un peu partout dans le pays, avec un objectif clair, entre 1000 et 2000 injections par jour dans chaque vaccin. Synodrome. Vous verrez qu'à partir de mai-juin, notre combat, ce sera de convaincre suffisamment de gens de se faire vacciner, confiait il y a encore quelques jours le président en privé. Pour réussir son pari et tenir son calendrier, Emmanuel Macron devra quand même compter sur une cadence de 330 000 injections par jour. Ça tombe bien, c'est exactement le nombre de vaccinations réalisées pour la seule journée d'hier.
Et Emmanuel Macron qui se projette déjà vers le bout du tunnel avec de premières réouvertures annoncées pour la mi-mai, terrasses et certains lieux de culture.
En attendant, avec l'élargissement des restrictions, ce sont 60 000 commerces supplémentaires qui vont devoir fermer à partir de samedi soir et pour 4 semaines.
Coût total 11 milliards d'euros par mois pour l'État. Des fermetures sur le modèle des 19 départements déjà partiellement reconfinés depuis un peu moins de 15 jours. Il sera aussi interdit de se déplacer à plus de 10 km sauf motif impérieux et avec une tolérance jusqu'à la fin du week-end de Pâques pour celles et ceux qui voudraient se confiner ailleurs que dans leur logement principal.
Un confinement qui ne dit pas son nom. Louis Dragnel, Emmanuel Macron n'a pas employé le mot hier soir. Pourquoi ?
Eh bien, parce que le chef de l'État ne veut surtout pas qu'on puisse parler d'un échec de son pari politique qui reposait jusque-là sur deux mesures qu'il avait érigées lui-même en totem. Pas de fermeture des écoles et pas de reconfinement. Alors si les nouvelles restrictions ne correspondent pas exactement à celles que nous avons connues lors du premier confinement il y a un an, ce sont quand même de véritables contraintes pour l'ensemble des Français. Vous connaissez l'adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a fait hier soir en se fixant lui-même deux nouveaux objectifs, accélérer la vaccination et surtout annoncer un horizon avec un agenda de réouverture des terrasses et de certains lieux de culture au mois de mai. Un nouveau pari audacieux, mais tout aussi risqué que le précédent, car s'il n'est pas en mesure d'honorer son engagement, eh bien à un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron pourrait facilement être comparé à François Hollande, qui avait conditionné sa candidature à la présidentielle de 2017 à l'inversion de la courbe du chômage. Avec l'issue qu'on connaît, François Hollande avait préféré ne pas se représenter.
Analyse de Louis Dragnel pour Europe 1. Dans la classe politique, au-delà des critiques de l'opposition, cette décision hier du groupe Les Républicains à l'Assemblée, les députés ne participeront pas au vote prévu aujourd'hui. Ils dénoncent un piétinement du Parlement.
7h08 sur Europe 1. Dans l'actualité de ce jeudi aussi, cette nouvelle cyberattaque contre une entreprise française.
C'est le groupe pharmaceutique et cosmétique Pierre Fabre, basé dans le Tarn, qui a été visé Théo-Manval.
Ouais, plusieurs sites de production et de distribution en Occitanie sont arrêtés depuis hier matin. Les salariés ont ordre de ne pas s'y rendre et de poser un jour de congé. Cette cyberattaque a été détectée dans la nuit de mardi à mercredi en provenance d'Asie, sans plus de précision. Les employés n'ont plus accès qu'à leur boîte mail. Par mesure de sécurité, explique l'un d'eux, tous les logiciels, fichiers partagés ou espaces d'échange ont été fermés. La direction précise que les cosmétiques et médicaments du groupe continuent à être distribués, que tout est fait pour rétablir la situation au plus vite. Mais le retour à la normale pourrait se faire attendre jusqu'au début de semaine prochaine. Pierre Fabre, on le rappelle, c'est le troisième plus gros laboratoire français, 10 000 salariés dans le monde, dont plus de la moitié sur une quinzaine de sites principaux dans l'Hexagone.
L'examen du projet de loi climat et résilience à l'Assemblée, les députés ont voté cette nuit en faveur d'un CO2 score, étiquetage environnemental sur le modèle du Nutri-Score. Il sera mis en place via une expérimentation en premier lieu dans le secteur de l'habillement, considéré comme la deuxième industrie la plus polluante au monde.
Le foot à présent est la fin de la parenthèse internationale avec des bleus poussifs hier soir contre la Bosnie.
Cyril de la Morinerie, vous avez suivi l'équipe de France qui a donc conclu cette série de trois matchs qualificatifs pour le mondial par une petite victoire, 1-0.
Oui, les Bleus n'ont pas été enthousiasmants durant ce stage. Sans Hugo Lloris hier soir, auteur d'une parade exceptionnelle, et Antoine Griezmann qui, d'une tête imparable, a inscrit son 35e but en sélection, l'équipe de France n'aurait sans doute pas signé une 8e victoire de suite à l'extérieur, un record. Alors même si tout n'était pas parfait, les Français sont malgré tout en tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde, et c'est ce que retient d'abord le sélectionneur Didier Deschamps.
Mais l'essentiel, le plus important, c'est le résultat. Après, dans le contenu, on est capable de mieux faire. On a eu une entame de mi-temps un peu laborieuse. Mais bon, le fait d'avoir joué 3 matchs et d'avoir 7 points, de par les résultats des autres équipes aussi, on est bien placé.
Dans cette dernière ligne droite avant l'Euro, Thomas Lemar notamment a marqué des points et Adrien Rabiot montre depuis son retour en septembre 2020 en équipe de France qu'il est à l'aise avec ce maillot bleu. Didier Deschamps dévoilera fin mai sa liste pour l'Euro.
Et dans ses éliminatoires pour le Mondial 2022, on retiendra hier cette surprise, défaite de l'Allemagne 2-1 face à la petite Macédoine du Nord. Et du coup, la Mannschaft se retrouve troisième de son groupe de qualification.
Pas vu. Troisième.
Exactement.
Ah oui. Merci pour cette info, j'ai vu ça, j'étais surpris aussi par le score de la Macédoine. Merci Marion Calais, 7h11 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Il est à la tête de 30 restaurants dans le monde et d'ailleurs c'est souvent ouvert pour lui en ce moment. 20 étoiles Michelin dans 11 pays, nous avons voulu inviter ce matin le chef Alain Ducasse pour nous changer les idées, pour mettre nos sens en éveil, le menu de Pâques, mais aussi l'innovation obligatoire pour ces chefs frappés par la pandémie. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouet.
Et on va parler du Sputnik V, le russe qui ne sauvera pas l'Europe et surtout pas de la zizanie.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les mesures annoncées hier pour lutter contre la pandémie sont un coup dur pour l'économie et pour les entreprises à un moment où l'activité reprenait de la vigueur.
Exactement, vous avez raison. Ces dernières semaines, le climat des affaires et le moral des ménages s'étaient améliorés. La vie économique s'était adaptée aux mesures de type couvre-feu, les entreprises faisant preuve d'une très grande agilité. Dans beaucoup de secteurs, on avait même retrouvé le niveau d'activité normal ou quasi normal. Et puis, il ne faut pas oublier que toute l'Asie est déjà bien repartie. Ça tire l'activité de beaucoup de nos entreprises. Dans l'industrie du luxe, c'est spectaculaire, par exemple, mais ça va bien au-delà. L'économie américaine également était repartie. Et tout ça se voit dans les perspectives annoncées ces derniers temps par nos très grandes entreprises. Beaucoup d'entre elles ont mis la crise du Covid derrière elles.
Ah, c'est plus dur pour les PME et pour le commerce.
Là, le contraste est très fort. C'est vrai, effectivement beaucoup plus dur. Et ce qui change tout, alors, pour les PME, évidemment, c'est l'école. Les grands groupes savent s'organiser, mettre en place du télétravail, c'est parfois compliqué mais gérable. Pour beaucoup de PME, en revanche, c'est un véritable cauchemar. C'est pourquoi elles redoutaient la fermeture des établissements scolaires. L'OFCE, qui est un organisme de recherche économique, a calculé que la fermeture des écoles avait fait reculer l'activité de 6% au printemps dernier. Alors heureusement, cette fermeture sera limitée, mais forcément, ça désorganise le travail. Sachez qu'il y a en France 7 millions de ménages qui ont un enfant de moins de 15 ans.
Alors ce qui est dur aussi pour les entreprises, c'est l'incertitude sur la date de retour à la normale.
C'est ce côté supplice chinois, oui, de stop and go qu'on vit depuis un an. Le contraste est frappant aujourd'hui avec les pays plus en avance que nous sur les vaccins, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Rappelez-vous simplement, dès le 22 février dernier, à Londres, Boris Johnson annonçait une première étape de sortie du confinement le 29 mars, c'était ce lundi, puis l'ouverture des terrasses de pub le 12 avril, les restaurants et les cinémas le 17 mai, etc. Vous voyez bien que ça aide énormément d'avoir comme ça un calendrier. Alors Emmanuel Macron le sait, il l'a esquissé hier en évoquant la réouverture des terrasses de bars et de restaurants à la mi-mai. Mais faute de certitude sur les vaccins, il est bien difficile d'être plus précis. Un flou pénalisant pour l'activité économique.
C'est ce flou aussi qui reste gênant, évidemment, ce côté, je retiens le côté supplice chinois. On attend. Merci Nicolas Barré. Il est 7h15, vous êtes sur Europe 1. Et on retrouve Vincent Hervouette pour son regard international. Tiens, on parlait de vaccination à l'instant. Les Européens... Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous les vaccinés.
Les autres, non ? Vous avez choisi la minorité, vous. Oui. Les Européens risquent d'attendre longtemps le vaccin russe, le fameux Sputnik V. Plus on en parle, moins il arrive.
Oui, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont discuté mardi soir avec Vladimir Poutine d'une coopération pour le produire. La chancelière veut utiliser le Sputnik dès qu'il sera autorisé. Les Français sont debout sur les freins. Le président accuse Moscou de semer la zizanie. Son ministre Le Drian dénonce un outil de propagande. Le commissaire Thierry Breton dit qu'il arrivera trop tard et qu'il y en aura trop peu.
La bataille des vaccins. C'est de la géopolitique.
Et toujours brutal, sans manière, à l'estomac. On l'a vu avec AstraZeneca qui fait l'objet de toutes les suspicions et la Grande-Bretagne redevient la perfide Albion. C'est pire avec le Sputnik. Hier, deux diplomates russes ont été expulsés d'Italie. Ils ont été pris la main dans le sac en train d'acheter des documents top secrets à un officier de marine. Ces affaires d'espionnage à l'ancienne se multiplient. Évidemment, les Russes qui ont un syndrome de persécution y voient un coup fourré pour torpiller les commandes concurrente de Spoutnik, que la Sardaigne, l'Ombrie, le Latium se préparaient à passer, à l'exemple de la région de Campanie, qui a déjà signé un contrat.
Le vaccin russe porte malheur.
Cette semaine, le Premier ministre slovaque a démissionné en demandant pardon d'avoir fait livrer 20 000 doses sans avoir demandé la permission. Le pays est dévasté par le Covid, mais depuis un mois, les doses restent dans l'emballage. Le voisin tchèque, qui a un taux de décès à peu près record, vient à son tour de passer commande. L'Autrichien négocie, mais seule la Hongrie y a recours. Le Premier ministre Orban cultive son image de provocateur. L'Agence européenne du médicament devrait autoriser le Spoutnik en juin, c'est-à-dire trop tard, puisqu'en juillet, l'Europe est censée avoir été assez vaccinée pour prétendre à l'immunité collective.
Décidément, le Spoutnik V n'a pas de chance.
Quand Vladimir Poutine l'a dévoilé l'été dernier, il a suscité le scepticisme général. Quand The Lancet, la revue de référence, l'a validé, le retour de Navalny le jour même l'a éclipsé. Quand le commissaire Borrell l'a applaudi comme une bonne nouvelle pour l'humanité, c'est l'expulsion de trois diplomates européens qui a été montée en épingle. Le Spoutnik est facile à manipuler. Il est fiable, il est bon marché, comme une Kalachnikov, c'est ce que disent les Russes. Il s'appelle Spoutnik V comme victoire, mais tout est fait pour qu'elle reste une petite victoire tactique sans lendemain.
Merci Vincent Hervouet. Le regard international, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1. Vous restez avec nous dans quelques toutes petites secondes, l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, c'est le 1er avril. Je ne vous collerai pas de poisson dans le dos. Nicolas Barré vous l'a déjà fait. Et par contre, dans un instant, on se demandera d'où vient le mot canular.
A tout de suite sur Europe 1, 7h18.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le confinement s'étend à la France entière. La saison blanche est actée pour les compétitions de sport amateur. Pourtant, de nombreux clubs trouvent des parades pour continuer à proposer du sport. Pour vous Virginie, cette crise sanitaire, elle prouve la richesse et la force du tissu associatif sportif dans le pays.
On pourrait se lamenter sur les conséquences dévastatrices de la crise sur le sport amateur. Il y a de quoi faire. Mais ce matin, je préfère regarder le verre à moitié plein et adresser un coup de chapeau à tous ces clubs et associations qui réussissent à se réinventer dans cette période noire. Alors oui, ils perdent des licenciés, oui, leurs finances sont au plus mal et personne ne sait quand viendra le retour à la normale. Et pourtant, ils trouvent des solutions. Il y a un couvre-feu, on change les horaires. Les gymnases sont fermés, on se déplace à l'extérieur. On ne peut pas se réunir à plus de 6, mais on fait des ateliers en petits groupes. Le sport amateur s'adapte et fait preuve d'une capacité de résilience assez impressionnante. Je vais prendre un exemple. L'AS Passy à Paris est un club de sport de combat. Il cumule les handicaps en période de pandémie, puisque ça se passe en salle et que ce sont des sports de contact.
Oui.
Donc des cours à l'extérieur ont été mis en place, de la remise en forme, des ateliers pour travailler une technique avec le respect de la distanciation, et ces cours sont gratuits. Des exemples comme ça, il y en a partout, dans toute la France, parce que les associations ont conscience aussi du rôle qu'elles ont à jouer pour la santé du public et pour le lien social. Ça me semble fondamental et c'est pour ça que je veux souligner leurs efforts.
Et puis tiens, je l'apprends du coup, les sports de combat en distanciation sociale, peut-être que je peux m'y mettre du coup, si on est à distance de son adversaire.
Les clubs,
Virginie, les clubs mettent en place une nouvelle pratique du sport.
Puisqu'il n'y a pas de compétition, ça nous force à voir le sport loisir un peu différemment. On ne fait pas du sport uniquement pour un match, une course ou un combat, mais aussi pour le plaisir du sport, pour se maintenir en force et en forme, et pour partager des moments avec d'autres sportifs. De confinement en confinement, nous avons tous également pris d'autres habitudes sportives. À la maison, par exemple, quand on n'a pas le choix. Et là encore, les associations se réinventent comme Héros Sport, dans le département de l'Hérault, comme son nom l'indique, qui propose des séances de sport en direct sur sa page Facebook. Là encore, il y a des exemples à l'appel, partout. Et tous ces efforts, de la gratuité au sport en ligne, c'est aussi une bonne façon de conquérir un public nouveau. Ils cherchent aussi de nouveaux modèles où la licence annuelle ne serait plus forcément l'unique voie vers le sport et réfléchissent à plus de souplesse. Quand tout ira mieux, il faudra qu'on se souvienne de ce que les clubs amateurs ont fait, des efforts auxquels ils ont consenti et des propositions qu'ils offrent. On a un tissu associatif sportif inventif et fort en France. Je crois qu'on peut en être fiers.
Et il fallait le souligner. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Juste une petite question Virginie, vous aimez les fruits de mer ?
Ah, j'adore ça, oui.
Si je vous dis poulpe grillée, betterave et grenade.
Ah, je prends.
Si vous me disiez non, j'aurais dit paquet riz,
non, mais je prends
de
tout de suite même.
Et lard paysan. Je suis en train de regarder le menu du casse chez moi, là. Le
je vais prendre un double menu.
De mon invité à 7h40, Alain Ducasse, qui sera dans ce studio. On va se changer les idées un tout petit peu. On va essayer de rêver un peu à la réouverture des terrasses aussi. Merci Virginie Fulpin. 7h23, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous le savez, inutile de le cacher, je suis un homme de tradition. C'est pourquoi le 1er avril, eh bien, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser au canular. D'où vient le mot canular ?
Et alors, sachez que quoi que vous disiez, j'irai vérifier. J'ai trop peur que votre explication du mot canular soit elle-même un canular ce matin. Même si vous me dites que ça vient du latin, eh bien, je vérifierai.
Eh bien, ça vient du latin. Cana, qui signifie tuyau. Cana a donné canula, un petit roseau. Et plus tard, on aura par extension le mot canule, un tuyau que l'on utilise pour introduire dans le corps du liquide. Oui, on parle bien de lavement. Il y a même un verbe que l'on n'emploie plus, mais qui était canulé, qui voulait dire importuné ou embêté. Cela faisait directement référence au désagrément que l'on pouvait éprouver quand on pratiquait sur vous le dit lavement. Non. Mais tout cela est totalement authentique. Vous pouvez aller vérifier. Mais oui, je vois Virginie, elle fronce.
Vous y non, croyez, Virginie, vous
pas ? Non, mais je ne pensais pas qu'on allait parler de lavement avec un canular, je suis désolée.
Surtout à 7h20.
Moi, j'ai envie de vous croire.
Chacun ses plaisirs. Au 19e siècle, les élèves de l'école normale supérieure avaient inventé un mot en pseudo-latin, canularium. C'était une sorte de bizutage pour les nouveaux arrivants. Canularium a donné canular. Terminons sur un canular historique, justement. En 1913, un journaliste a envoyé à plus d'une centaine de parlementaires français une invitation pour inaugurer un monument à la gloire du grand Hégésippe Simon, un précurseur de la démocratie et des valeurs républicaines. L'événement avait lieu dans la ville de Poil, dans la Nièvre. Il a reçu plein de réponses des hauts dignitaires de l'époque, prêts à venir à Poil ou désolé de ne pouvoir venir à Poil. Inutile de préciser que Hégésippe n'a jamais existé, mais qu'à Poil, aujourd'hui encore, il y a une jolie plaque commémorative à la gloire de ce canular.
C'est avant Daniel Prévost,
Oui, c'est ça. C'est 16h tout à l'heure. On vous retrouve pour Historiquement Votre, Stéphane.
Oui, on réunit trois personnages de l'histoire qui se sont lancés un défi fou. Inventer des cornflakes pour lutter contre la masturbation, poser un avion dans les rues de New York en étant passablement éméché et gober 50 œufs à la suite. Et même si nous sommes le 1er avril, ce n'est pas une blague, vous verrez. C'est Historiquement Votre.
On va vérifier tout ça entre 16h et 18h sur Europe 1. À tout à l'heure.
7h25, dans quelques toutes petites secondes, on va retrouver Laurent Cabrol, bien sûr, pour la météo. Et Sophie Echen, un nouveau journal sur Europe 1, tout de suite. Il est 7h28 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec moi en studio et je voulais vous poser la question. Dans la Nièvre, à Poil ?
Il vient d'en parler, hein, notre ami Stéphane. Eh ben, à Poil, dans la Nièvre, il va faire 26 degrés cet après-midi.
Donc oui.
Donc c'est une température chaude. Et à Rebousse-Poil, à Béthune, il fera que 13 degrés. Voilà, 15 degrés à Cherbourg-Coutances, puisque nous en sommes aux températures, Béthune 13, Cherbourg-Coutances 15, 19 degrés à Perpignan, 20 degrés à Nice, 21 à Lille, au Havre et à Dieppe, 22 à Toulouse, 24 à Dijon, Épinal, Saint-Dié-les-Vosges, 25 à Rethel, Nancy, Clermont-Ferrand, Lyon et Montbrison dans la Loire, 26 à Bordeaux, Nevers, Nantes, Paris, Poitiers, Montmorillon, 27 à Auxerre et à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, et puis 28 degrés à Calais, non, à Cahors, pardon, et Morlaix. Ça pourrait être ça.
Calais, Cahors, pour connaître les deux villes, c'est pas le même climat.
Cahors et Morlaix, 28 degrés. Bon, allez, on peut sourire parce que finalement, il ne va rien se passer. En ce qui concerne la couleur du ciel, nous aurons un temps très dégagé, excepté sur Languedoc-Roussillon, comme d'habitude. C'est exactement le même temps qu'hier, avec les mêmes températures, avec les mêmes fourchettes, avec tout. J'espère aussi avec la même bonne humeur. En tout cas, je vous la souhaite de tout cœur, chers amis.
Et on salue les Pixiens.
Ah bon ?
Ce sont les habitants de Poil.
Ah tiens, voilà, je savais pas.
Les Pixiens et les Pixiennes. On les salue ce matin sur Europe 1, 7h29.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées.
L'annonce était redoutée par beaucoup de parents d'élèves et tout le monde cherche une solution pour éviter de revivre l'expérience du premier confinement, quitte à ne pas totalement respecter les consignes. La fermeture des écoles, limitée à 3 semaines en France, stratégie beaucoup plus stricte, vous l'entendrez, chez nos voisins européens. L'opposition dénonce des décisions trop tardives et pas adaptées aux différences territoriales. Dans ce journal aussi, Joe Biden qui annonce son plan d'investissement massif de 2 000 milliards de dollars. Et puis la sortie de la
chasse, le dernier roman de l'un des maîtres français du polar, Bernard Minier.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, bien sûr. Le chef cuisinier, chef 20 étoiles au Michelin, Alain Ducasse, invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, c'est Nicolas Bétou.
Petite astuce pour sortir d'un pari raté, un gros pari raté, ben en lancer un autre. C'est ce que vient de faire Emmanuel Macron, en promettant le déconfinement progressif à partir de la mi-mai.
Et ce sera juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Aujourd'hui, l'épidémiologiste Martin Blachier. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce n'est pas un confinement, c'est un effort supplémentaire. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a annoncé un durcissement des mesures pour tenter de freiner l'épidémie de Covid. La principale annonce, la fermeture des écoles, mardi et pour 3 semaines. Et c'est ce que redoutaient de nombreux parents, comme Alice, maman de 2 enfants. Mais elle assume, au micro de Benjamin Péter, cette fois, ils verront leurs copains.
Ils ont des mauvais souvenirs du premier confinement, surtout le petit qui avait 5 ans et qui s'est ennuyé pendant 2 mois, qui a quand même souffert d'isolement, de solitude. Donc là, c'est clair qu'on ne vivra pas la même chose, hein, même si on est à la maison, on a les copains pas loin.
C'est quelque chose qui n'était pas du tout envisageable pour le premier confinement.
Ben non, on ne le faisait pas, on se l'interdisait, alors que ça aurait pu nous aider. Et là, cette fois-ci, on ne va pas s'en priver. On va pouvoir s'organiser pour avoir du temps pour eux, donc on aura du temps aussi pour les enfants des copains et leurs copains à eux s'il y a besoin. Et puis même s'il faut faire appel aux grands-parents, on fera appel aux grands-parents. Mais c'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs. Au moins une semaine. On va pas leur faire revivre cet isolement qu'ils ont connu il y a un an. C'est pas possible.
En tout cas, on peut dire qu'Emmanuel Macron a pris son temps avant de décider de la fermeture des écoles. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Nos voisins en Europe ont pris cette mesure bien plus tôt.
Oui, c'est vrai que beaucoup de petits Européens ont, eux, déjà été privés une deuxième fois d'école, de l'Italie aux Pays-Bas, en passant par l'Estonie ou la Pologne. Il y a une semaine, la Belgique a également décidé d'avancer les vacances de Pâques. Seule la Suisse et l'Espagne résistent et gardent les classes ouvertes. Les Scandinaves le font, mais seulement pour le primaire et le collège. Les Français ne se sentiront pas seuls non plus pour les restrictions de déplacement. Pas question de quitter sa ville ou sa région en Espagne. Même chose en Allemagne, quand l'incidence augmente trop. La Belgique, elle, a tout simplement interdit à ses citoyens de quitter le territoire depuis le début de l'année. Comme beaucoup de ses voisins, la France a attendu de se prendre la 3e vague de plein fouet pour réagir. Mais tous n'en sont pas au même point. Le Portugal et l'Irlande, frappés parmi les premiers, sont sur le point de déconfiner. L'Allemagne, elle, a préféré prévenir que guérir. Les mesures y sont déjà strictes, alors que le niveau des contaminations est 2,5 fois inférieur à celui de la France.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. À partir de samedi, les restrictions sanitaires déjà appliquées à une vingtaine de départements seront donc étendues à tout le pays. Tous les commerces non essentiels devront refermer leurs portes, soit 150 000 établissements. Bercy annonce que le coût des aides passe à 11 milliards d'euros par mois.
Cette généralisation des mesures à tout le territoire, c'est ce que déplore le député Les Républicains Philippe Gosselin. C'est une marche arrière du gouvernement.
Je m'étonne qu'aujourd'hui, alors que les chiffres sont quand même différenciés selon les régions, que l'on en soit à une mesure unique sur l'ensemble du territoire, en tout cas métropolitain, on reconfine comme si on avait perdu un peu son pari. La pièce était encore en l'air et elle vient de tomber. J'ai vraiment le sentiment qu'en réalité, on reprend les recettes d'il y a un an sans avoir tout appris. Un président qui ne se remet pas en cause. Hein. Bon, on a commis quelques petites erreurs, peut-être. Allez hop, on dégage tout cela. On a une impression de déjà-vu.
Le député Philippe Gosselin avec Claudia Bertram. À l'étranger, l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, vient d'entamer une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention dans l'une des colonies pénitentiaires les plus dures de Russie. Il serait privé d'accès aux soins, privé de sommeil aussi, avec des réveils forcés jusqu'à 8 fois par nuit.
Aux États-Unis, c'est une somme qui fait tourner la tête. 2000 milliards de dollars. C'est le vaste plan d'investissement dévoilé par Joe Biden.
Mais le président américain était à Pittsburgh, en Pennsylvanie, hier. 2000 milliards de dollars donc pour moderniser les infrastructures du pays, comme les routes, les ponts, mais aussi pour construire une économie plus verte. Écoutez.
C'est un investissement qui n'arrive qu'une fois par génération. Le plus grand investissement en faveur des emplois américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Il va créer des millions d'emplois, nous rendre plus compétitifs et nous mettre en position de gagner la compétition mondiale face à la Chine dans les années à venir. C'est grand, oui. C'est audacieux, oui. Et nous pouvons y arriver.
Voilà, et ce plan vise à créer des millions d'emplois. Il sera financé par des hausses d'impôts sur les sociétés, a dit Joe Biden.
Et puis on va parler d'un des plus gros vendeurs de livres en France, Bernard Minier. Son nouveau roman sort aujourd'hui.
La chasse, c'est son titre. Et Nicolas Carreau l'a lu pour nous.
Ça commence par un cauchemar. Le commandant Martin Servaz, le héros que les lecteurs de Minier connaissent bien, est en train de rêver qu'il dîne en compagnie de tous les morts croisés dans sa carrière de flic, sacré tablé. Il est tiré du sommeil à 4h du matin par un coup de téléphone, mais la réalité est presque plus étrange que le rêve. Il est appelé pour se rendre en Ariège, dans une forêt. Un homme a été renversé par une voiture au milieu de la nuit. Il est mort, on l'a retrouvé nu, le mot « justice » gravé sur le torse, et, fait notable quand même, il porte une tête de cerf, une vraie qui recouvre sa propre tête. D'ailleurs, le conducteur a cru d'abord qu'il avait percuté une bête, mais non, l'homme a surgi de la forêt sur la route, il n'a pas pu l'éviter. Manifestement, la victime a couru longtemps dans la forêt, les pieds sont abîmés, l'homme a été chassé, littéralement. Pourquoi ? Par qui ? L'enquête commence, Martin Servaz traque à son tour les coupables, lutte contre ses propres fantômes et interroge les dysfonctionnements de la société et le rôle et la place de la police aujourd'hui.
Et puis un petit mot de football, la France s'impose sans briller 1-0 face à la Bosnie en match de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine. Les Bleus restent en tête de leur groupe.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce matin, prenons un peu de recul sur la situation stressante. Évidemment, pour beaucoup d'entre vous, nous, on essaye de ne pas broyer du noir tous les matins, mais c'est pas forcément évident de laisser ces difficultés de l'actualité de côté. Mais alors justement, qu'y a-t-il de plus réjouissant, de plus réconfortant, de plus français même, que de parler cuisine ? Alain Ducasse nous rejoint en studio. On va vous redonner le goût et l'odorat ce matin, chocolat, café, agneau pascal, parce qu'on se projette dans le week-end de Pâques. Oui, Alain Ducasse, le tête-à-tête Europe Matin dans 3 minutes. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Allô, je vous entends pas Mathieu, je suis bloqué dans un tunnel. J'en ai pour 6 semaines encore, au moins.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Vous avez vu, ça va mieux. On est sorti de la crise. Poisson d'avril.
Je
vous ai bien vu. Hein. Vous auriez vu vos tronches, Mathieu, il était là. Oh, mais non. Mais là, non, évidemment que non. En 2021, les poissons d'avril, ça ne marche plus. On sait que c'est le merdier écrit en lettres majuscules qui clignote avec des bruits de klaxon. Donc non. De notre temps, les poissons d'avril, ça ne fonctionne plus. Imaginez. Non, mais imaginez l'an dernier, quelqu'un qui vous aurait dit, bah tu vois, dans un an pile, on en sera exactement au même point qu'aujourd'hui. Macron à 20h qui parle et qui ferme presque tout. Il y a un an. Ça faisait un excellent poisson d'avril. Ça se soldait par oh, t'es con, Michel. T'es sympa et t'es con, j'y ai cru. On se serait bidonné en tapant sur les casseroles pour soutenir le personnel soignant. Sauf qu'un an plus tard, bon bah, c'est moins rigolo.
Oui, d'un coup, oui.
La réalité a dépassé tous les scénarios les plus fous. Clairement, le réel a décimé tout espoir de trouver un poisson d'avril. Il n'y a plus de poiscaille. Heureusement, il nous reste la télé pour se changer les idées. Même si honnêtement, ils exagèrent. Faut pas s'étonner que les plateformes soient de plus en plus regardées. La télé traditionnelle, c'est la foire à la rediff. Hier soir à 20h, ils ont encore rediffusé un vieux truc que tout le monde avait déjà vu. Je suis à peu près certain que la préparation du discours du président s'est déroulée comme ça. Bon, pas trop m'embêter, moi. J'en ai marre aussi, de toute façon. Alors, je vais ressortir le vieux truc. Où est-ce que j'ai mis le fichier ? Brouillon discours confinement septembre 2021. Non, ça c'est pour plus tard. Alors, hop. Ah, ça y est. V6 def discours confinement mars 2020. Mes chers compatriotes, blablabla, je sais votre lassitude, etc. Ok, c'est pourquoi fermeture des écoles, ça je garde, ok. Je laisserai Édouard Philippe vous apporter les précisions. Ah non, merde, ça j'enlève, ça marche plus. On est d'accord, c'est pas la peine que je dise que c'est Castex qui précisera les trucs vraiment pas cool. Tout le monde a intégré le principe, ok. Le reste, je garde, c'est toujours d'actu. J'ai eu raison jusqu'ici, on est les plus forts des meilleurs, nickel. Ah ouais, il y a le passage sur l'espoir, j'avais oublié ça. Je dis quoi pour l'espoir ? Fin avril ? Septembre ? Juin ? Bon allez, va pour mimer. Vous pourrez lancer une musique émouvante à ce moment-là ? Non, c'est trop ? Bon ben je ferai mon regard caméra du chapeauté de Shrek. Espoir d'une reprise progressive pour le monde culturel et les terrasses mimées, super. Au pire, si on n'atteint pas l'objectif, je dirais qu'ils avaient mal compris. Ah mais non, mais j'avais pas dit mimer, j'avais dit mimer, mais la situation ne le permet pas. Voilà, Marseillaise, fin, ben, je crois qu'on est bon, c'est parti. Allez, bon 1er avril aussi joyeux qu'un 1er novembre à tous.
Et l'avantage, c'est qu'on est un peu dans la playlist Spotify de Bertrand Chamerois ce matin.
Eh oui, le musée des horreurs.
Qui chante ça ?
Sandra Kim, monsieur.
Il a la réponse, c'est ça le plus flippant. Merci Bertrand Chamerois, la touche âme. À 10h, on vous retrouve avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h42.
Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses.
Dès la mi-mai, C'est déjà une promesse. Alors dès ce matin sur Europe 1, la table du restaurant se dresse, la cuisine s'active, on va éveiller vos sens et vous changer les idées aussi ce matin. Le très grand chef Alain Ducasse est mon invité.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Alain Ducasse.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être avec nous en studio ce matin. On en avait bien besoin. Alors il y a ce parfum de week-end pascal, cette envie de se retrouver à table et sans masque. Mais d'abord, et d'un mot, c'est à contre-courant de l'actualité, vous dites que vos restaurants à New York, par exemple, ont toujours travaillé et qu'il ne fallait pas fermer les restaurants en France ?
Nous n'avons jamais fermé à New York, même en plein hiver, avec une jauge très faible de 75% de réduction. Nous n'avons jamais rompu le lien avec les clients. Je pense que la pression des blouses blanches à Paris et en France est très forte. Et voilà, c'est comme ça.
Il y avait la possibilité, vous dites, de faire autrement, de penser les choses autrement. On a déjà beaucoup dit la détresse des restaurateurs.
Avec une grande rigueur dans l'exécution des mesures barrières. Alors, avec un grand contrôle. Donc, il y avait une extrême rigueur et ça a marché. Donc, est-ce qu'on était capable de l'appliquer en France ? Je ne le sais point puisqu'on n'a pas essayé.
Paris, New York, le Japon, bien sûr, Alain Ducasse aussi. 30 restaurants à travers le monde. Avec la pandémie, ça a dû bien changer votre vie. Hein. Au-delà des revenus et de votre activité, je veux dire, votre quotidien de chef multi-étoilé. Je crois que c'est 20 étoiles au Michelin, Alain Ducasse.
Nous avons réussi quand même à ouvrir 2 restaurants à Kyoto pendant la pandémie. Un de très haute gastronomie, un bistrot français. Voilà.
Vous avez pu ouvrir des restaurants
oui,
au Japon
en visio. J'ai pas goûté les plats, mais...
On ouvre des restaurants en visio en 2021.
Oui, mes collaborateurs sont des gens qui travaillent avec moi depuis 10 ans, des passionnés, ils connaissent le sujet, voilà. Donc finalement, tout est possible. On a appris des choses.
Le week-end pascal. Parlons-en, Alain Ducasse, Pâques, c'est bien sûr le chocolat. Alors je pense qu'on va l'apprendre à beaucoup de nos auditeurs. Vous êtes aussi chocolatier. Vous êtes même le seul artisan chocolatier de la ville de Paris.
Oui, quand j'ai ouvert en 2014, c'était le cas. Maintenant, on a quelques... jeunes couples qui se sont mis à faire du chocolat dans Paris.
On commence à faire du chocolat dans Paris.
Oui, je suis celui qui en fait le plus et qui fait de la fève au bonbon. Et je contrôle toute la chaîne de fabrication. Je fais mon praliné derrière le Père Abasti. Bon, c'est un très bel atelier. Si vous passez par là, il faut surtout...
Mais vous torréfiez tout ça dans Paris.
Oui, tout. On fait tout. On reçoit des sacs de cacao du bout du monde. On les torréfie, on fait les bonbons, on fait absolument tout. Et nous vendons dans nos magasins avec nos vendeuses. Voilà, nous contrôlons toute la chaîne. C'est d'ailleurs, je dois vous avouer, un grand succès.
J'ai cru que c'était une plaisanterie au début parce qu'Alain Ducasse est rentré dans ce studio quand même avec une caisse d'huîtres, une bourriche d'huîtres. Mais c'est juste la boîte. C'est juste la boîte. C'est du chocolat.
Ce sont des poissons en chocolat.
Poissons d'avril. Les fameux poissons d'avril, évidemment. Alain Ducasse, à Paris, vous allez aussi ouvrir un glacier. J'ai envie de faire rêver nos auditeurs ce matin, je vous ai prévenu. On va pouvoir goûter des glaces Alain Ducasse, des glaces artisanales, évidemment.
Bien sûr, dans quelques semaines. Voilà. Je fais un testing tout à l'heure, d'ailleurs.
Et je voyais qu'il y avait aussi un nouveau... Alors, le glacier, c'est dans le 11e arrondissement. J'ai une question là-dessus, parce qu'il y a un nouveau restaurant qui va ouvrir rue de Paradis.
Oui, qui va être sur le thème d'une naturalité accessible, ce qu'on appelle une naturalité de rue, des légumes, des céréales, très très peu de protéines animales. La protéine animale, elle est issue de la mer. Elle est de poisson de pêche durable en très petite quantité. Je dirais que la protéine animale est devenue un assaisonnement. Donc c'est pas un restaurant végétarien, mais c'est la tendance respectueuse de la santé des individus qui la consomment, cette cuisine. Sous le nom de naturaliste aujourd'hui, elle est livrée. Et dans quelques semaines, nous ouvrirons un restaurant rue de Paradis où tout le monde pourra venir puisque le prix moyen sera entre 20 et 25 euros. Donc on va être un restaurant extrêmement accessible avec des économies, non pas sur la qualité des produits, mais sur des économies sur le service pour que tout le monde puisse venir. Je pense que c'est la leçon de l'après-Covid, c'est soyons accessibles, la haute gastronomie doit descendre dans la rue.
Et vous, oui, parce que je voyais aussi, c'est pour ces quartiers que je vous posais la question, le 11e rue de la Roquette pour le glacier, la rue de Paradis, le 10e arrondissement pour ce restaurant. Après, Alain Ducasse, ça reste Alain Ducasse, il y a Versailles aussi.
Oui, bien sûr, en même temps.
Et en même temps, je voyais aussi cette volonté de réduire la viande, le Plaza Athénée, c'est sans viande déjà depuis 5 ans, Alain Ducasse. Vous êtes un adepte du monde d'après. Vous croyez qu'après cette pandémie, le monde aura changé.
C'est nous qui allons le construire. Donc, qui va prédire où on sera dans 15 mois? Mais très certainement, nous serons encore plus précautionneux du consommateur. On aura besoin de resocialisation. Je pense que la table sera à nouveau un lieu où on aura envie de se rencontrer, de partager, d'échanger. Voilà, je pense que le monde après, on va le construire ensemble. C'est tout.
On sent, et dites-moi si je me trompe hein, pour le coup, mais on sent que malgré le contexte, évidemment, vous restez extrêmement actif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même une sacrée dose d'optimisme en ce moment quand on est restaurateur pour voir ce monde d'après, s'imaginer le construire, ouvrir des établissements.
Je dis le matin, je décide la position, c'est position on. Donc tout le matin, je dis, on va faire quelque chose de positif, on va continuer, on n'arrête jamais en fait. Il ne faut surtout pas subir, il faut garder le manche et il faut rester en charge de ses ambitions et on a...
Je voyais votre menu de Pâques, Alain Ducasse, parce que là on a tous un peu rêvé cette nuit en regardant d'abord Ducasse et moi l'offre oui, Click and Collect livre, aussi, la possibilité de se faire livrer, les restaurants continuent à travailler, c'est juste qu'ils ne sont plus ouverts. Le menu de Pâques aussi, le gigot d'agneau de lait de 7h, pomme à la boulangère, vrai jus. Alain Ducasse, c'est incontournable hein, l'agneau à Pâques. Hein.
Oui, puis c'est... toutes les régions françaises en produisent, avaient des labels. Enfin, je suis président des meilleurs ouvriers de France Cuisine et un des thèmes des années passées, c'était l'agneau. Il y avait 36 finalistes et j'ai goûté 36 agneaux extraordinaires. Nulle part au monde, on a autant de variétés et il faut le souligner. Donc bien sûr que l'agneau pascal, d'abord, nos producteurs ont besoin qu'on leur achète leur production, le fruit de leur élevage, ça leur permet d'en vivre correctement. Donc voilà, je pense qu'il est essentiel de continuer à faire fonctionner l'économie.
On est dans l'arôme ce matin, Alain Ducasse, le goût, l'odorat avec vous. Drôle de symptôme hein, de cette maladie Covid-19. Parfois, on le voit, ça dure des mois. Pour un cuisinier, cette histoire de perdre le goût et l'odorat, c'est la fin du monde.
Oui, par chance, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai quelques confrères à qui c'est arrivé. C'est un grand traumatisme. Et puis, assurance ou pas, si ça ne revient pas, c'est quand même un handicap majeur. Mais tout ce que je connais, on l'a retrouvé.
Après l'agneau, le chocolat, les glaces, on va rester dans l'arôme. Et on retrouve tiens, l'odorat, le café. On sent qu'Alain Ducasse, vous voulez tout contrôler à tous les étages. Je lis hein, le café comme celui que vous signez pour le musée du Louvre. Alors au-delà de l'effet communication qui est quand même évident, hein, parce qu'entre vous et le Louvre, on a deux institutions. Non, vous ne signez pas un café ?
Si, je signe un café, mais ce n'est pas du co-branding. Nous avons élaboré un café avec les équipes du Louvre, avec une vraie histoire, avec un café différent, avec un café d'Éthiopie. Maturé, qui a un peu, je dirais, un goût de gibier. Alors, c'est une signature particulière, mais il a de l'aspérité, il est différent. Est-ce qu'il va plaire ? Certainement. En tout cas, on l'a voulu comme ça avec le Louvre.
Je pensais simplement à la page blanche. J'imagine Alain Ducasse qui doit penser un café pour le monde. C'est ce mot signer un café. Mais vous l'avez détaillé, un peu d'Éthiopie, un peu de... C'est un mélange, en fait.
Un peu de geisha du Panama. Je suis allé planter les rares cafés geisha sur une plantation sur le bord du volcan Barou. Voilà, c'est une situation assez exceptionnelle. Donc, c'est récolté à parfaite maturité, séché au soleil. Donc, voilà, on a dosé. J'ai un torréfacteur, un grand torréfacteur, un jeune grand torréfacteur. Voilà, on fait le juste mélange de Brésil, de Panama, de Café de la Réunion. Enfin, voilà, on a.
Oui,
le talent de ce torréfacteur, c'est qu'on a décidé d'une ligne éditoriale de goût et on va la maintenir. Elle a une spécificité, c'est un goût pas commun.
Entrée, plat, dessert et café au petit déjeuner ce matin avec Alain Ducasse. Tiens, c'est quoi le petit déjeuner d'Alain Ducasse ? Ce matin,
sincèrement, je vais faire 3 dégustations, d'accord ? J'ai un petit déjeuner où je vais déguster des viennoiseries, après je vais déguster des glaces, et après je vais déguster des biscuits. Et après, je n'aurai pas de déjeuner. Oui, mon déjeuner, il commence
on va sauter un repas après
dans
tout
une
ça.
Heure, de 9h à midi, je vais déguster.
Breakfast with Alain Ducasse ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Alain Ducasse. Merci. Et je rappelle à nos auditeurs à qui les restaurants manquent qu'on peut toujours continuer à commander hein, à distance. Ça s'appelle Ducasse chez moi.
Et naturaliste. J'envoie de la nourriture de deux accès, c'est naturaliste et Ducasse chez moi.
Merci beaucoup Alain Ducasse.
Merci à vous.
Le cuisinier, créateur, chef 20 étoiles, Alain Ducasse était l'invité du Tête à Tête Europe Matin, 7h51.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et comme dirait le film, merci pour le chocolat, Alain Ducasse. Je le vois, je l'envisage, je vais attendre 9h personnellement pour pouvoir continuer à parler dans le micro. Nicolas Bétou, l'édito politique dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Je me mets sur la bonne page, je vais être transparent avec mes auditeurs, j'étais encore sur la page Alain Ducasse, vous me pardonnerez Alain. Alors vous nous aviez dit, hier matin, que si Emmanuel Macron parlait, ce serait pour annoncer de mauvaises nouvelles.
Bah bingo, c'est le cas, la France doit à nouveau s'enfermer pour 4 semaines, école bouclée dès demain soir. Et même si le chef de l'État semble toujours avoir autant de mal à employer le mot confinement, pour décrire ce qui nous attend, c'est bien de cela dont il s'agit. Un confinement du troisième type, entre l'ultra sévère façon mars-avril dernier et le plus souple de l'automne passé, une forme de en même temps.
On aura dans une heure les chiffres d'audience de l'allocution du président de la République. Mais est-ce que l'intervention d'Emmanuel Macron a été bonne ?
Sur la forme, oui. Pas d'emphase, pas d'envolée lyrique, du concret. Presque trop, d'ailleurs. C'est toujours étrange de voir le président commenter des slides, des courbes, des tableaux. On dirait le directeur général de la Santé. En tout cas, sur le fond, Emmanuel Macron a adopté un positionnement assez équilibré, je trouve, entre les mauvaises nouvelles, l'enfermement de toute la France, et les mots de réconfort face à la lassitude, l'énervement de beaucoup. Et surtout, il a dessiné un horizon. Il a donné une échéance de sortie de crise.
Oui, 4 semaines, puis encore 2 de transition avant réouverture progressive.
Oui, et c'est la première fois que ça se produit aussi nettement. Lors de ses précédentes interventions, Emmanuel Macron soit ne s'était pas engagé, soit il avait souligné le côté provisoire de ses annonces. Cette fois, il donne des dates précises, des étapes dans la montée en puissance de la vaccination et parallèlement dans le desserrement de la contrainte. Et ce n'est pas anodin. Depuis que la pression pour un reconfinement avait envahi le débat public, on avait vu une bataille politique se dérouler sur le thème « le pari perdu du président qui ne voulait pas reconfiner et qu'il allait y être obligé ». Et bien c'est vrai, ce choix de ne pas suivre l'avis des médecins depuis 2 mois n'a pas réussi. Et c'est vrai aussi que l'entourage du chef de l'État avait beaucoup brodé autour de l'idée d'un président qui voit tout, comprend tout et décide tout de la politique sanitaire. Bon, son plan pour reprendre de vitesse l'épidémie a échoué, c'est le virus qui a gagné, et c'est donc lui, personnellement, qui a perdu.
Et donc, donner un horizon, ce serait une façon de faire oublier cette course perdue.
Exactement. Emmanuel Macron fixe un nouveau rendez-vous aux Français, trace une perspective de sortie réelle, datée, calée sur la montée en puissance de la campagne de vaccination. Une façon, bien sûr, de renouveler les termes du pari et d'essayer de se ménager un peu d'air politique.
Votre édito tous les matins dans Europe Matin avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, à sa manière, Nicolas Canteloup conseille l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Martin Blachier, épidémiologiste et médecin de santé publique. Et c'est Emmanuel Macron qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Carole. Oui. Vous m'entendez bien parce que je suis dans le bunker.
Oui, oui, de loin.
Du Conseil de défense, oui, sous l'Élysée. Ça capte. Ok, parfait. Et bonjour, pardon, à Martin Blachier. Il est étonnant, ce Martin Blachier. Il a un côté médecin de série américaine. C'est un petit peu la version californienne de Jimmy Mohamed, qui lui-même est un petit peu la version Warzazat de Jean-Paul Hamon, qui lui-même d'ailleurs est un peu la version Lino Ventura de Catherine Hill, qui elle-même est... Enfin bref, c'est pas mon propos. Non, je voulais juste dire un mot à Martin Blachier, parce qu'il était opposé à la fermeture des écoles. Mais j'ai envie de lui dire, mais mon petit bonhomme, ça se voit que tu n'y connais rien en épidémiologie. Moi, vous savez, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je trouve par exemple qu'il a de sérieuses lacunes, Martin Blachier, sur les problématiques de transmission de la tripeptine monoclonale des virus nucléodynamiques.
Allons. Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose, Monsieur le Président. Enfin, je crois que Martin Blachier vous dirait la même chose. Pour le coup, personne n'a jamais entendu parler de ça, ni lui, ni aucun épidémiologiste.
Eh bien voilà, quand je vous dis que vous n'y connaissez rien, merci de me le prouver en me disant que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Alors par pitié, ne vous mêlez pas de mes prises de décision, bordel.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale, Martin Blachier à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et Nicolas, on vous retrouve à 8h45, bien sûr, pour la revue de Presque. Bon réveil à tous. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Allez, on va résumer, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sera exactement le même temps qu'hier, un ciel dégagé, hormis le Languedoc-Roussillon. Par ailleurs, les températures sont les mêmes. Ce matin, elles sont un petit peu plus élevées, entre 5 et 12 degrés. Cet après-midi, entre 15 et 28 degrés, c'est exactement le même temps qu'hier, donc température et tout. Et je peux résister au plaisir de vous donner, pour terminer, le jumelage du jour. Poisson, la ville de Poisson, en Saône-et-Loire, 21 degrés. Et jumelé avec la ville d'Avril, qui est en Meurthe-et-Moselle. Poisson d'Avril, je le fais tous les ans. Je ne pouvais pas m'empêcher de le faire aujourd'hui.
Voilà. Mais vous n'avez pas dit Avril, combien ils ont aujourd'hui?
Ils ont 25 degrés.
Ah oui, fait meilleur Avril qu'à Poisson. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, hein, on écoute le monde changer.